C'est l'heure de Meilleur Espoir. Je reçois un ou une invitée dont je pense qu'elle ou il est une figure montante du cinéma français. Au cours d'un entretien libre, mon meilleur espoir du jour partage avec moi et avec vous tout ce qui permet d'entrouvrir la porte sur sa personnalité et sur ce qui le constitue en tant qu'artiste. Une émission d'Audrey Forestier sur Radio Campus Paris est disponible en podcast sur toutes les plateformes dédiées.
Le César de la meilleure espoir féminine.
Le César du meilleur espoir féminin.
Une espoir, c'est pas français, c'est un espoir.
Son César du meilleur espoir féminin.
Du meilleur espoir féminin.
Le César du meilleur espoir masculin.
Das meilleur espoir féminin.
Le César du meilleur espoir féminin.
Vous faites le plus beau métier du monde.
J'ai déchiré le papier en deux, ça commence bien.
Il arrive que l'on fasse la rencontre, plus que l'acquisition à proprement dit, d'objets qui rendent notre quotidien plus confortable. Pour ma part, il y a eu les lentilles de contact à l'adolescence qui m'ont permis de voir enfin le monde en grand. Et plus tard, on m'a offert un formidable oreiller à mémoire de forme qui me repose de tout ce que suppose de voir le monde en grand. Aujourd'hui encore, à chaque fois que je retrouve mon fabuleux coussin, je m'étonne de sa capacité à épouser parfaitement les contours de mon crâne ou de mon profil. Je lui suis reconnaissante de savoir adopter le poids, les angles, les petites douleurs de ma trop lourde tête. Mon meilleur espoir est un peu l'oreiller à mémoire de forme d'un réalisateur, ou plutôt de ses personnages. Elle est chanteuse et compositrice pour l'image. Cette année, elle a signé la BO de deux films très remarqués, celle de La Voix Royale de Frédéric Mermoud et celle du Consentement de Vanessa Philo qu'elle a co-composée avec Olivier Coursier. Et ce qui m'a frappée dans son travail, c'est sa capacité à accompagner au plus près les protagonistes, à traduire de façon sensible et juste leurs mouvements intérieurs. Elle parvient, subtilement, à remuer en nous, à la façon du ressassement des vagues, les émois de ceux que l'on voit à l'écran. On se sent alors si proche d'eux qu'on dirait qu'ils écoutent cette musique aussi, comme nous, au même moment, et que l'on se trouve sur le même bateau, sur la même île, sur le même oreiller, et que ce sont nos têtes ensemble qui sont accompagnées. Quand on entend le travail de mon meilleur espoir, on se rend vite compte de sa grande sensibilité, certes, mais aussi de sa maîtrise, de sa lecture fine et approfondie d'un scénario. Cela doit être une rencontre très apaisante et très confortable pour celle ou celui qui remet son film entre ses mains de musicienne. Je vous propose aujourd'hui un petit voyage en terre insulaire avec mon meilleur espoir, Audrey Ismaël. Salut Audrey.
Salut Audrey. Merci, c'est très, une belle introduction, c'est très touchant, merci beaucoup.
Est-ce que tu retrouves des choses qui te sont proches dans ce que j'ai dit ?
Je pense que la première chose moi que ça m'évoque effectivement, c'est l'importance des personnages. Moi, je pense qu'il y a deux manières de faire de la musique au service de l'image, au service d'une histoire, au service de fiction. C'est soit d'accompagner l'action, soit d'accompagner les personnages. Ça m'intéresse moins d'accompagner l'action parce que j'ai l'impression que elle est censée se valoir à elle-même, enfin, et se suffire à elle-même entre guillemets. Et donc accompagner une blague en musique, ça veut dire qu'elle n'est pas suffisamment drôle pour qu'on en rie. Voilà, après, il y a des cinémas de genre, d'action, films d'horreur, etc., qui se prêtent à des musiques qui accompagnent l'action, mais dans les films plus auteurs, notamment les deux que tu as cités, qui font partie de cette catégorie et que j'ai eu la chance de mettre en musique cette année, effectivement, moi, ce qui m'intéresse, c'est de trouver le personnage musique qui est caché dans une fiction et révéler aussi quelque part un peu l'abstraction d'un film. C'est-à-dire que le personnage, c'est comme s'il l'écoutait. Moi, parfois, je me dis, c'est comme s'il faisait de la musique. Quelle musique il ferait. D'ailleurs, je pousse même l'exercice comme sur La Voix Royale en composant un générique de fin où j'aime bien essayer de me dire, tiens, si le personnage composait une chanson, quels mots elle utiliserait. Et du coup, voilà, effectivement, ce truc de rentrer dans les personnages, moi, la musique à l'image m'a appelé pour ça, c'était d'aller me plonger dans des histoires et du coup d'avoir ce cadre pour être en grande liberté de création musicale.
On reparlera peut-être tout à l'heure, si on y arrive, de la façon un peu plus technique que tu as de travailler. Mais pour l'instant, j'aimerais qu'on poursuive sur le cœur du sujet qui est ton métier, ta passion, qui est la musique, et qu'on fasse une petite chose que je ne fais jamais d'habitude et qu'on débute l'émission par le commentaire de ta playlist. Voilà, ouais. Je voudrais que tu nous fasses tout de suite découvrir ton univers musical et je pense que tu as dû m'en vouloir un petit peu de te demander que 4 titres. Je pense que ça a dû être un peu une douce torture pour toi de n'en choisir que 4. Du coup, je voudrais que tu débutes tout de suite par ça.
Oui, alors j'ai choisi, je me suis demandé quel axe choisir et je me suis dit que c'était un peu 4 chansons que j'emmènerais sur une île déserte, ce qui était un axe qui me semblait pas mal. Parce que sinon, c'était peut-être des BO de films et donc du coup des références, des compositeurs qui m'inspirent en musique de film et tout. Mais je trouvais ça intéressant vu qu'il y avait quelque chose de plus global aussi dans cette présentation. Je me suis dit que c'était intéressant d'aller plutôt sur des morceaux que j'emmènerais sur une île déserte. Et donc, j'ai choisi Blackbird des Beatles, qui est les Beatles de manière générale qui sont moi très très haut dans mon panthéon d'artistes que j'aime. Blackbird en particulier, qui est une chanson composée par Paul McCartney. Pour moi, Blackbird, c'est la chanson que Paul McCartney compose au moment où il est complètement, complètement baigné dans les Beatles et où il veut impressionner John Lennon et où il compose cette chanson qui a à la fois son côté très efficace et très droit. Les compos de McCartney sont plutôt droites, etc. Et il arrive à toucher un peu la liberté et le génie de Lennon. Et ces deux trucs-là ensemble font cette chanson que j'ai entendue en concert en 2018, en Sainte de 5 mois. Et j'étais très, très bien placée. Et j'ai vu cette chanson avec mon gros ventre de femme enceinte chantée par McCartney. Et c'est mon plus grand moment. Je crois que c'est le moment que j'ai préféré dans ma vie C'est mon meilleur souvenir de musique sur cette chanson. Ça, c'est pour ça que je l'ai choisi. Après, j'ai choisi aussi Nantes, qui est une chanson donc de Beyrouth.
Alors ça, c'est une super découverte pour moi. J'ai adoré ce titre.
Génial.
Vraiment, merci, parce que je crois que ça va devenir un titre
Tu l'emmèneras sur une île déserte.
Ouais, je pense aussi, ouais.
J'adore ce morceau. J'adore, en fait, moi, il y a ce côté voyage. J'adore la voix du chanteur de Beyrouth. Je le trouve incroyable. J'ai l'impression qu'il a ce côté conteur, en fait. Il nous emmène dans un voyage. Il y a un côté un peu... Il y a quelque chose de très cinématographique, je trouve, parce que ça pourrait être la BO d'Emir Kutsuri. Enfin, ça pourrait être une BO de Goran Bregovic et je trouve qu'on retrouve ce côté un peu les rythmiques et ces cuivres et cet emballement et cette espèce de truc qui monte et qui monte et qui monte et voilà, c'est une chanson que j'aime beaucoup et c'est marrant parce que du coup pour rester un peu dans le voyage, je sais pas si tu connaissais celle-là, mais Rufus Wainwright, Going to a Town, c'est une voix aussi, c'est vraiment c'est plutôt des chansons de voix de conteur quoi. Rufus Wainwright pour moi c'est un peu la même chose et cette chanson c'est une chanson qui m'évoque quelque chose à la fois de en même temps de très direct, de très universel, de très intemporel et en même temps il y a quelque chose, moi on me la met, c'est immersif, je suis tout de suite entre la lumière, le sombre, c'est cette espèce de truc d'éclipse totale et la dernière chanson que j'ai choisie c'est une chanson qui s'appelle Reste la Maloya de Alain Peters qui est un artiste réunionnais parce que du coup, je me suis dit que c'était chouette de faire un petit clin d'œil à mon île. Je suis originaire donc de l'île de La Réunion et du coup, c'est un chanteur qui est mort très jeune, qui a brûlé un peu tout par les deux bouts. Et c'est un scénariste qui m'a fait découvrir cette chanson il n'y a pas si longtemps, qui s'appelle Julien Lilti, qui a écrit la série Germinal dont j'ai composé la musique. Quand je lui ai dit que j'étais réunionnaise, il me dit « Ah, tu connais ce morceau ?» Puis je l'ai écouté. Et en fait, j'étais sur la plage avec mon fils et j'ai fondu en larmes. Enfin, c'est une chanson qui a tout de suite qui est venue taper dans mon ancestral parce qu'il y a vraiment toutes ces polyrythmies réunionnaises, ce côté maloya, etc. C'est une chanson, que je connais depuis pas si longtemps mais qui me connaît depuis bien plus longtemps.
Ça n'avait plus de vent. Meilleur espoir, un vendredi sur 4 à 19h sur Radio Campus Paris.
Et justement, je rebondis sur, sur la Réunion, puisque j'ai parlé de l'insularité un petit peu dans ta présentation. Et c'est Frédéric Mermoud qui m'a dit « il y a en effet quelque chose de très insulaire chez Audrey ». Comment t'expliques qu'on puisse dire ça de toi ?
Écoute, je pense que la Réunion... Enfin, c'est marrant parce que mon compagnon est corse. Et donc, la première personne qui m'a fait... C'est un ami qui un jour qui fait « Ah, c'est les insulaires qui se rencontrent ». Voilà, et la Corse, c'est l'île de beauté. La Réunion, c'est l'île intense. C'est comme ça qu'on les appelle. Mais dans ce côté, je sais pas, moi, j'imagine qu'il y a quelque chose de... Comment dire ? Je pense que l'insularité crée quelque chose de... Je sais pas comment expliquer. Quelque chose qui se protège et en même temps qui accueille. Enfin, il y a cette espèce, je pense, de quelque chose à la fois très, je pense, assez chaleureux, qu'on retrouve quand même assez souvent dans les îles. Et en même temps, c'est marrant, quand il y a eu le Covid, bon, pour être sur un truc pas hyper rigolo, mais quand il y a eu le Covid il y a quelques années, je sais qu'en Corse, ils étaient hyper, hyper en restriction. Et en fait, à un moment, ils disent, ouais, bah, et à La Réunion, pareil. Et on s'est dit, bah, j'en parlais avec Julien, je dis, tiens, c'est fou. Et ouais, mais parce qu'en fait, s'il y a un malade, comment on fait pour l'emmener ? Enfin, cette espèce de précarité, je pense aux tours génoises par rapport à la Corse, je pense à La Réunion et cette île où il y a un volcan par. Enfin, 5 éruptions volcaniques par an et un cyclone par an, c'est quand même une densité. Moi, c'est ce que ça m'évoque. Je sais pas si c'est pour ça qu'il a dit ça. Oui, et puis je sais pas, je pense que c'est chaque île a une vraie singularité. Donc, si j'en cherche le positif, peut-être qu'il y aurait un petit peu de ça aussi.
Avec ton compagnon, vous partagez ça, d'accord ? Est-ce que vous partagez la musique aussi ? Est-ce que lui, il est musicien ?
Non, il est réalisateur.
Mais lui, il joue pas d'un instrument ?
Non, pas du tout.
Ça vous arrive pas de vous retrouver tous les deux ? Non. Et allez, avec... genre, moi, je prends la guitare et toi ?
Non, pas du tout. Avec mon fils un petit peu qui chante. Enfin, notre fils qui chante, du coup, pour le coup, qui a pris le jeu de musique, mais que Julien a aussi, parce qu'il est très bon. Il a une très bonne écoute, une très bonne oreille, une vraie sensibilité à la musique, mais il en fabrique pas à proprement parler. Et on le partage beaucoup parce qu'on partage vachement la passion pour la musique, pour le coup, sans en faire ensemble. Et voilà, là, il travaille sur son premier long métrage dont je suis en train de travailler sur la musique. Donc, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de notre quotidien en ce moment, plus que jamais d'ailleurs.
Toi, tu transmets ta passion à ton fils, mais est-ce que toi, cette passion, elle vient de tes parents aussi? Est-ce que tes parents jouaient d'instruments? Est-ce que c'est eux qui t'ont transmis
Alors, pas du tout. Mais presque à force de ne pas me l'avoir transmis, ils m'ont transmis. Enfin, tu vois, c'est l'espèce de tout. Enfin, en général, c'est souvent la continuité ou l'inverse. Moi, mes parents mettaient pas de musique, écoutaient pas du tout de musique. Et ce qui est drôle, c'est que mon frère aussi fait de la musique. Donc, vraiment, il y a des grands mystères. Et en même temps, ma mère est très, très heureuse et... avec cette curiosité un peu, comment dire, à la fois, mais en même temps une petite curiosité fierotte de dire mais c'est fou quand même que mes deux enfants soient musiciens, alors que moi, ma mère, je me suis toujours dit que c'était une artiste qui n'avait pas trouvé son médium d'expression. Et du coup, bah, peut-être que ça passe, et quelque part, elle n'écoutait pas de musique parce que la musique la plonge trop dans des états, une musique triste la rend très très triste, enfin, elle est trop sensible à la musique. Donc quelque part, elle n'écoutait pas de musique, mais... il y a quand même une sensibilité très forte, et notamment à la musique, qui du coup nous a été transmise. Et via mon père, c'est mon père qui était réunionnais, enfin qui est réunionnais, je pense que le côté polyrythmique et réunion, etc., qui fait partie de ma musique. Mais par contre, ils n'en faisaient pas, ils en écoutaient très peu. Moi, j'ai eu ma première chaîne IFI, j'avais 13 ans.
Mais alors comment t'es devenue musicienne? Je veux dire, là, tu joues de quoi? Tu sais jouer de quoi?
Alors, moi, je fais du piano et je chante, mais je ne suis pas une grande instrumentiste. Au sens virtuose du terme.
Oui, oui, je comprends.
Je ne joue pas, je suis pas une grande pianiste, ouais. Très loin de là.
Mais du coup, est-ce que tu as pris des cours? Enfin, comment ça s'est passé pour toi?
J'ai pris des cours de piano un peu quand j'étais petite. J'ai appris à jouer du piano assez jeune. J'ai pris 2 ou 3 ans de cours de piano et puis plus parce que je trouvais ça hyper contraignant et que j'avais un prof pas très sympa. Enfin, la caricature, tu vois, du prof de piano, pas qui ferme le truc sur les doigts, mais il était vraiment pas très sympa et je me cachais derrière les rideaux pour pas en faire et tout. Donc, enfin, bref. Mais ça a dû me rester parce que il y a une dextérité des doigts qu'on a quand même quand on est enfant. Donc voilà.
Quel âge t'avais là?
Ça, je devais avoir entre 6 et 8 ans.
Ouais.
Et puis ensuite, j'ai arrêté complètement. Puis j'ai repris le piano à 15 ans, pendant 2 ans aussi. Mais vraiment, c'était plus de l'harmonie, comprendre un peu les accords, avec un prof qui n'était pas, dans le solfège, etc., mais plutôt justement sur l'harmonie.
Et ça, c'était ton désir profond. Enfin, c'est toi
qui es
allée...
J'ai rencontré ce prof par ami. Et du coup, voilà. Et ensuite, j'ai re-arrêté. Mais j'ai quand même toujours eu le chant, moi, à côté. Ça a toujours été quand même... J'ai toujours aimé chanter. Chanter un peu juste et donc du coup de manière un peu encouragée, bah tiens chante, enfin ça a toujours fait partie ça pour le coup de... Plus tard j'ai fait de la musique, j'ai eu des projets avec des compositeurs, moi je composais pas du tout, on composait des chansons pour moi et je les chantais, mais j'étais pas non plus une grande chanteuse, donc bon c'était sympathique, mais enfin ça a pas non plus révolutionné la roue tant s'en faut. Et puis les années sont passées et puis j'ai eu un événement dans ma vie perso un peu difficile où du coup je me suis dit tiens mais on n'a qu'une vie, enfin c'est ce truc un peu à la con quoi, on n'a qu'une vie, et je me suis remis derrière un piano et j'ai commencé à composer des trucs très simples, juste piano voix, et j'ai envoyé ces morceaux mais en mode dictaphone sur mon iPhone, je les ai envoyés à Vanessa Philo, qui est mon amie la plus proche et que je connais depuis plus de 20 ans. Et je lui ai envoyé ces petits morceaux en lui disant « T'en penses quoi ?» On a eu un groupe ensuite, mais c'était bien avant ça. Et elle me dit « Ah putain, mais c'est... »
Smoking.
Voilà, exactement. Et je lui envoie ça et elle me dit « Putain, c'est ouf que t'aies ces mélodies en toi. » Enfin, moi, je ne savais même pas. Enfin, voilà. Et donc, bref, ça m'a vachement encouragée. Et puis, pas très longtemps après, on a monté Smoking. Parce qu'elle aussi, elle avait cette envie de musique en liberté, en bienveillance et tout ça. Et donc, on a monté ce groupe-là. Puis, du coup, ça a été les premières compos. Puis, le groupe Smoking, ça a duré 2 ans. Et puis, quand on a décidé de mettre ça un peu en stand-by, parce que Vanessa avait envie de repartir vraiment plus vers le cinéma. Moi, c'est vrai qu'accompagner les récits de cinéma, c'est devenu un truc où je me suis dit, ah putain, mais ça peut être super. Parce que j'avais pas du tout le côté projet perso. Moi, mon nom, c'est... voilà. Et en fait, aller me cacher derrière des projets pour ce que je disais un peu tout à l'heure, quoi. Mais en gros, voilà. Enfin, la composition s'est construite comme ça, pardon. Du coup, c'était assez long comme parcours,
mais
c'est pas un parcours très simple. Du coup, j'ai fait le conservatoire, j'ai arrêté à 18 ans. Enfin, voilà, c'est un parcours un peu plus par vague.
Est-ce que tu crois, Audrey, que tu pourrais essayer de nous expliquer comment tu travailles, comment tu fais pour créer? C'est naïf comme question, hein, mais comment tu fais concrètement pour créer une BO, une bande originale de film? Et est-ce que tu procèdes toujours de la même façon?
Alors, je ne peux pas procéder de la même façon à chaque fois. Et je pense que c'est d'ailleurs ce que je trouve intéressant là-dedans, puisqu'on ne peut pas être dans un automatisme, parce que c'est chaque réalisateur avec qui la démarche est... Enfin, c'est vraiment, on rejoue son titre, quoi, entre guillemets, à chaque collaboration, et même d'une collaboration à l'autre avec le même metteur en scène. Moi, c'est vrai que ma première étape, toujours, c'est de conceptualiser la BO. C'est-à-dire me dire quels instruments je vais utiliser dans cette BO. Est-ce que je vais utiliser un violoncelle, du piano, de la voix, des nappes, des arpèges, des synthés électro, des percussions, une boîte à rythme de hip-hop, enfin voilà. Et en gros, ce que j'aime, c'est de créer des rencontres entre des instruments qui n'ont pas forcément pour habitude de collaborer et d'essayer de trouver un sens à ça. Voilà, pour donner un exemple plus concret, parce que là, c'est très conceptuel, mais dans les derniers films que j'ai fait par exemple un film réunionnais d'ailleurs, un long métrage réunionnais d'un metteur en scène réunionnais qui s'appelle Grégory Lucilli, qui va sortir en 2024.
À quoi le titre du
film ? Le film s'appelle Maman veut plus. C'est une histoire sociale qui se passe de nos jours, une mère qui abandonne ses deux enfants qui sont confiés du coup à l'ASE, et voilà, c'est le parcours de ces deux enfants dont le fils se sauve un peu grâce à la danse, et donc c'était le score de cette musique, sachant qu'il y avait beaucoup de musique préexistante, donc des synchros de toutes ces scènes de danse avec des musiques du coup, donc comment venir mettre un score et lier ou pas tout ça. Je me suis dit, tiens, ce serait intéressant de jouer vraiment quelque chose de très cinématographique, parce qu'il y a quelque chose de très horizontal quand même dans la poésie de ce jeune garçon et de sa sœur, et en même temps j'avais quand même envie qu'il y ait ce lien avec l'île de la Réunion, et donc en fait j'ai vraiment utilisé beaucoup de violoncelles, d'instruments un peu classiques entre guillemets, de score de cinématographique, et je les ai mêlés avec que des percussions réunionnaises. Donc j'ai utilisé du cayambe, j'ai utilisé du piquer, j'ai utilisé du rouleur, enfin du coup des instruments traditionnels réunionnais, sachant que la rythmique réunionnaise en plus c'est assez particulier, le maloya, c'est des rythmiques en 6-8, donc c'est des chaloupés qui sont un petit peu particuliers, très reconnaissables et très polyrythmiques, et donc en fait se rencontrer ces deux univers musicaux, et en fait ça c'est un peu mon point de départ, c'est comme si je te dis, tiens, tu vas faire un tableau, bah, tu vas utiliser telle et telle couleur.
Ouais.
Moi, ma première étape, c'est de choisir ces couleurs-là.
D'accord.
Chaque film, je fais ça. Pour chaque film, je choisis et j'essaye de m'y tenir. Et parfois, je suis là, ça marche pas, il faut que j'aille chercher autre chose. Et en tout cas, j'aime bien créer quelque chose d'assez hybride, souvent quand même dans ces alliances, c'est-à-dire mélanger des choses un petit peu classiques avec des choses plus actuelles. J'utilise aussi beaucoup ma voix. Et donc, du coup, voilà. Donc, la première étape, ça va quand même être de définir les couleurs avec lesquelles je vais faire la BO. Et puis ensuite, bah, j'en parle avec le réalisateur. J'aime bien, là, je viens de finir une BO aussi où on a tenu une BO entière avec un seul violoncelle, une voix de violoncelle. Et du coup, en fait, de cette contrainte naît quelque chose, moi, que je trouve toujours intéressant. Parce qu'en fait, ça oblige à créer une grammaire. Et je trouve qu'un film qui a une grammaire musicale et du coup une encre émotionnelle qui est aussi appuyée par des gimmicks et une grammaire musicale, c'est aussi le cas dans La Voix Royale, je pense aussi, le travail de ce qu'on a fait avec Fred, pour aller aussi dans cet exemple-là. Mais en gros, c'était utiliser le violoncelle avec que des arpèges de violoncelle qui se construisent, qui pour moi évoquaient vachement les mathématiques et ce côté très, tu vois, cycle de mathématiques qui se construit. Et en dessous, de poser une rythmique avec que des choses très organiques, donc c'était que des et des souffles et des claps, etc. C'était... Pour moi, c'était elle, son chemin et son transfuge qui restait. Voilà, elle portait avec elle l'endroit d'où elle venait, la campagne, le fait de venir d'un milieu paysan, etc. Et d'arriver dans ce grand lycée un peu écrasant. Et du coup, j'aimais bien se faire rencontrer, que les instruments aussi recréent cette espèce de choc des mondes.
Je redis, hein, parce que je te l'ai dit au téléphone, que j'ai adoré la BO de ce film. Ah, je l'ai chasamé pendant le film.
C'est cool.
Donc vraiment, c'est un magnifique travail que tu as fait sur ce film. Vraiment, je te le redis.
Bah, merci. Voilà. Bah, du coup, c'est aussi ça. Du coup, c'était trouver en même temps le personnage de Sophie. C'était trouver ce qui allait l'accompagner et la porter tout le temps, justement. Et pour moi, cette rythmique. C'est vrai que je pars souvent de la couleur des rythmiques quand il y en a. Il y a des films où il n'y a pas forcément de rythmique, mais en tout cas, quand il y en a une. Et ça, je pense que ça vient aussi de ses origines réunionnaises, quoi. Mais la question du rythme, c'est toujours un peu la première qui se pose.
Mais alors, je suis désolée, je pense que je vais te poser une question con, mais tu me dis que tu joues du piano, mais après tu me dis que tu mets du violoncelle dans les BO. Mais tu joues du violoncelle ?
Non, je joue pas de violoncelle.
Alors explique-moi ça.
Alors ça, c'est du coup maintenant, on est bien équipés, on est très aidés quand même en musique, parce qu'il y a des... En fait, en musique assistée par ordinateur, enfin en MAO, du coup, la MAO nous permet de faire des maquettes. Et puis ensuite, j'ai un violoncelliste merveilleux qui s'appelle Guillaume Latil, avec qui je travaille régulièrement, qui vient rejouer les violoncelles, parfois les interpréter, parfois même les arranger et apporter vraiment artistiquement aussi un jouage de violoncelliste. Les percussions, bah pareil, je vais les maqueter, mais le film Réunionnais dont je te parlais, j'ai travaillé avec un percussionniste qui s'appelle Nicolas Montazzo, qui est incroyable, et voilà. Donc après, moi, je pose des maquettes, et puis il y a aussi une étape de studio et de production où on réenregistre. Parfois, on réenregistre pas. Enfin, ça dépend un peu des instruments et des films.
Je reviens sur ton processus de création. Donc, quand tu as défini cet univers, cette coloration, que tu en parles avec le réalisateur, tu lui proposes des morceaux tout faits sur des passages du film. Qui décide de, à ce moment-là, il y aura de la musique, enfin, tu vois ?
Ça dépend des réalisateurs. La Voix Royale, Fred et Sarah, qui est la monteuse du film, Sarah Anderson, ils avaient temp-traqué tout le film. C'est-à-dire qu'ils avaient mis des musiques temporaires qui faisaient partie de mon répertoire précédent.
Ah.
Donc ça, c'était assez cool parce que du coup, il y a souvent cette étape de temp-track, mais quand c'est avec d'autres compositeurs, du coup, c'est plus dur de retrouver, retrouver ce qu'ils ont cherché à traduire comme émotion avec des morceaux que j'ai composés, c'était intéressant. Mais en général, donc le spotting, c'est-à-dire où il y a de la musique, où il n'y en a pas, souvent c'est le réalisateur ou moi et le réalisateur.
Tu peux suggérer ça.
Ah bah complètement. Ouais, ouais. Et ils sont souvent en demande
réceptifs
de ça.
De ça, ouais.
Tiens, est-ce que là tu penses qu'il en faut pas ? Moi, ça m'arrive hyper souvent de dire là il en faut pas. Enfin, donc c'est pas parce que je, en tant que ma place de musicienne, au contraire, je me dis pas il faut plus de musique, parce que parfois je trouve que trop de musique aussi dessert la musique et fait que du coup ça devient une espèce de long tunnel de musique et on perd du coup l'essence des choses. Alors que quelque chose de plus économe en termes de musique, le moment où la musique existe, elle existe vraiment, c'est plutôt moi, ma grammaire et ma manière de composer les musiques.
Bah c'est super, parce que du coup, c'est plus clair pour moi. Je pense que c'est plus clair pour tous ceux qui ne savaient pas comment ça se passe.
It's been a long time, long time now, since I've seen you smile, and I'll gamble away my fright, and I'll gamble away my time, and in a I've seen you smile.
Audrey, je me suis rendu compte, puisque là, les nominations au César viennent de sortir, là, ça date d'hier, que l'actrice principale de La Voix Royale, Suzanne Joynet,
ouais.
et l'actrice principale du Consentement, Kimi Bilin, sont toutes les deux nommées pour les révélations.
Ouais.
Et ça a du sens par rapport à ce qu'on se disait sur ton travail, parce que elles incarnent deux personnages que tu accompagnes beaucoup. Dans ta BO.
Bah complètement, ouais, et puis ça revient un peu sur ce par quoi on commençait, à savoir mettre en musique les personnages, qui est vraiment quelque chose qui me porte énormément et qui m'inspire beaucoup. Et en plus là, c'était deux merveilleuses comédiennes cette année que j'ai pu mettre en musique, dont j'ai regardé le souffle, dont j'ai regardé les tremblements, les doutes, voilà, deux personnages féminins.
Tu les as rencontrées?
Je les ai rencontrées toutes les deux.
Ah.
Alors j'avais rencontré Kim parce que donc le film de Vanessa, Vanessa étant une amie très proche, j'avais rencontré Kim avant le tournage et voilà. Et Suzanne non, parce que Suzanne j'ai rencontré après le tournage, parce que j'ai rencontré Fred plus tard. Et c'est toujours assez émouvant. J'avais eu ça, j'avais fait une musique de la série Les Grands aussi il y a quelques années. Et en fait c'était sur une bande d'ados. Et je me rappelle, la série avait été sélectionnée au Festival de La Rochelle. Je les avais pas encore rencontrés et en fait je les vois tous et j'avais envie de leur sauter dans les bras parce que moi, j'avais passé des mois avec eux, ils savent c'est qui elle, parce qu'ils ne m'avaient pas encore rencontrée. Donc, c'est vrai qu'il y a un décalage d'intimité totale, puisque moi, je passe énormément de temps sur leur visage, sur leurs yeux qui se gorgent d'eau, sur leur sourire, sur leur demi-sourire, et du coup, le mettre en musique ou pas, et venir justement dire autre chose, qu'est-ce qu'un regard veut dire, parce que la musique peut venir aussi par moments un peu soutenir, relativiser, nuancer, etc. etc. Donc, du coup c'est vraiment un truc de souffle total, et donc ouais, du coup je suis hyper émue de ces deux comédiennes géniales qui sont en plus aux côtés de sacrées pointures, la catégorie révélation cette année avec Céleste Brinkel,
Rebecca
Marder, c'est assez de haute volée, donc ouais. Voilà, ça promet pour les Césars, mais je trouve ça génial. Puis elles ont fait toutes les deux
elles sont extraordinaires,
un super boulot, ouais. C'est ça, c'était une belle année pour les deux,
ouais. Audrey, si tu veux, on peut passer à la phase des cartes de couleurs. Je te réexplique le concept. Ouais. Donc, il y a plein de petites cartes de couleurs. Voilà, je t'en sors quelques-unes. Là, elles sont dans le sac. Et alors, tu peux décider. Tu veux que je les sorte? Tu
non,
préfères voir les couleurs ou tu pioches au hasard, c'est vrai?
Ouais.
Oh, quelle aventurière.
C'est folle.
Et donc voilà, tu pioches et puis tu verras, il y aura un thème écrit sur une carte.
Okay.
Et tu peux décider de m'en dire quelque chose ou pas. Enfin, voilà.
D'accord.
Tu me dis ce que ça t'inspire.
Ok. J'ai toujours été très malchanceuse. Ah, putain, gris. Malchanceuse au jeu. Alors, tabou limite.
Est-ce qu'il y a des choses que tu ne mettrais pas en musique?
Moi, je déteste mettre en musique les scènes d'amour.
Ah bah tiens.
Pour moi, une scène d'amour qui a besoin d'être mise en musique, c'est une scène d'amour qui n'est pas réussie, quoi. Enfin, pour moi, justement, il y a quelque chose... C'est vrai, j'en parlais hier avec une grande metteur en scène qui est Jeanne Herry, qui est merveilleusement la nommée, qui a fait ce film extraordinaire cette année. Et j'en discutais avec elle et on se parlait de la scène de la vie d'Adèle, la fin de la vie d'Adèle, la scène de rupture entre Adèle et Léa Seydoux dans le café, quand elle... qui est une scène d'amour, justement, qui... Je dis, mais cette scène, on n'aurait pas pu mettre... Enfin, voilà, pour moi, en fait, les grandes scènes de baisers, d'amour, etc., etc., c'est vrai.
Et les scènes d'intimité, de charnel, les scènes de sexe?
Moi, en fait, pour moi, oui, si, ça peut marcher différemment, parce que ça peut créer un espèce de décalage, justement, et créer une petite distance pour rendre cette scène, voilà, de ce moment-là, quelque chose du coup est né qui voilà. Après je pense que c'est une typologie de scène d'amour entre guillemets, comme j'aime pas mettre en musique non plus les blagues, ça j'aime pas trop, parce que je trouve qu'une bonne blague a priori elle a pas besoin d'un voilà, et surtout serait nul. Non, a priori, ouais, voilà. Après c'est pas une vraie limite, hein. C'est plus moi, c'est une des grammaires que j'aime moins.
Est-ce qu'il y a des thèmes de films sur lesquels tu voudrais pas te plonger?
J'ai hyper peur des films d'horreur. mais d'accord. Genre méga peur. Enfin, genre, enfin voilà, donc bon, après ça.
Oui, puis alors, comme en plus tu les dissèques quand même, ouais. Ces films, après tu les vois de près, donc oui, de rester peut-être seul avec le film d'horreur, ça te met pas bien peut-être.
Ouais, après je pense que du coup, finalement, à force de le disséquer, il y a un moment donné où tu finis par complètement, tu vois, c'est désamorcer le truc quoi. Mais moi, je peux pas regarder un film d'horreur avant de me coucher, sinon je dors pas. Enfin, c'est vraiment, j'ai vraiment très sensible à ça. Mais après, si en plus je te dis ça, alors qu'en vrai, ce serait plutôt marrant. Au contraire, moi, je trouve que tout est génial à explorer. En vrai, je trouve que on a fait une comédie là dernièrement justement avec Olivier. Et comment, où se placer par rapport à l'humour. Je trouve que c'est une problématique entre guillemets et un axe qui peut être super marrant et intéressant aussi. Non, je pense que si les projets sont bien écrits, ce que je trouve plus difficile, c'est effectivement quand les metteurs en scène n'ont pas forcément la même envie de musique. Justement, tu vois, typiquement mettre en musique à fond, sortir les violons pour une scène d'amour, pour moi, c'est dur. Voilà, quand du coup, mais si un metteur en scène a envie de ça, du coup, voilà, bref, c'est un peu comment. Parce que plus tu avances, plus j'ai l'impression qu'on te prend aussi pour la musique et aussi pour une grammaire, mais parfois pas. Du coup, enfin, parfois il y a des choses où on n'est pas forcément d'accord, et puis c'est le metteur en scène qui décide à la fin, quoi. Donc voilà.
Tu veux en tirer une autre ?
Ouais. Politique.
Wow. Ah. Est-ce que ça t'intéresse ?
Ouais.
Tu t'y intéresses ?
Oui. Bon, voilà. Je suis pas experte du tout, mais je m'y intéresse. Oui.
Tu votes ?
Oui, quand même. Ouais. Enfin, je suis embêtée de voter ces derniers temps. mais oui. Enfin, j'aimerais avoir plus de gens pour qui voter.
Est-ce qu'il y a des sujets politiques, par exemple cette année, qui t'ont ému ? Qui t'ont énervé, qui t'ont...
Bah là, c'est une année hyper dure. C'est très, très dur. Moi, je suis quand même quelqu'un de féministe assez engagé. Voilà, la remise en question de l'inscription de l'avortement dans la Constitution, par exemple, ça me fait pleurer. Ce qui s'est passé aux États-Unis il y a quelques années m'a fait pleurer, donc même si c'est pas comparable du tout. Hein, mais bref, en tout cas, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Toutes les lois sur voilà, le mariage pour tous, etc., etc. Je suis très impliquée aussi et pour une égalité des droits sur tout ça. Donc tout ce qui va venir remettre en question ça me froisse profondément. Et voilà, la loi sur l'immigration aussi. Enfin non, on a que des sujets horribles en plus.
Ouais, donc, triste époque.
C'est très, très, très triste. Et du coup, bah, forcément, pour les gens qui sont à gauche, c'est très dur en ce moment.
Tu dirais que tu es plutôt une femme
oui.
de gauche, du coup.
Ouais, okay. Ouais.
Bon, très bien. Voilà. Bah, écoute, ça me va. Ok, tu peux continuer si tu veux.
Allez. Tac, pardon. Souvenir de tournage.
Est-ce que ça t'arrive d'aller ouais. sur les tournages ?
Ouais, ça m'arrive. Ça
sur
m'arrive.
Ceux de Vanessa, par ouais. exemple, plutôt.
Sur ceux de Vanessa, sur ceux de Julien.
Ou de Julien, ouais. Julien Colonna, donc.
Voilà,
ton
Julien
compagnon,
Colonna, voilà. Mon compagnon. Ça m'arrive souvent quand c'est des amis proches, du coup. Donc, ça, c'est hyper chouette.
Comment tu te sens ? Quand tu y vas.
Bah c'est un peu bizarre parce qu'en fait je suis la seule personne qui a rien de spécial à faire, c'est un peu chiant sur un tournage parce que ouais, tout le monde, et du coup tu te sens moins utile que
en plus
le...
souvent il n'y a pas beaucoup de place, tu sais.
Exactement,
pas trop
où complètement. Et du coup d'avoir moins d'utilité que le 8e stagiaire, enfin tu vois, tout le monde est utile, en fait tout le monde a une mission et toi t'as pas de mission, et du coup c'est étrange par moments parce que je me sens un peu pas à ma place, etc. Sauf sur quand même les tournages, voilà, tu parlais de Vanessa effectivement, où je suis allée sur, quand je suis sur des tournages des gens qui sont des amis, j'ai pas ce sentiment là et j'adore là le tournage de Vanessa ou le tournage de Julien. Entre deux prises je vais croiser leur regard, en plus c'est des gens avec qui j'ai une complicité telle et une écoute telle et quelque chose tellement de sous la peau que du coup on se regarde dans un regard, etc. Et donc c'est des moments je me sens très privilégiée, quoi, parce que du coup je me sens je me dis waouh, quelle chance d'être là, de pouvoir être un peu dans leur ombre un petit temps, mais j'y passe pas non plus.
Est-ce que ça peut t'aider, est-ce que ça peut apporter quelque chose en plus à ton travail d'avoir assisté à des tournages de scène du film dont tu vas créer la musique?
Ça dépend. Là, sur le film de Julien, Le Royaume, j'ai assisté à une scène qui est une scène vraiment assez importante et j'ai pleurer sur le plateau, etc., etc. Mais après, parfois, les tournages, moi, je trouve ça assez chiant, c'est très long. Et quand t'as rien à faire, du coup, par un moment, voilà, le fait de refaire la prise aussi pour des raisons techniques, parce que voilà, il n'y a pas du tout le fantasme de tout, tu refais pas une prise parce que ça peut être plus émouvant et la prise après est plus émouvant. Enfin, tu vois, il y a aussi tout l'aspect technique. Et du coup, quand t'as rien à faire, moi j'aime bien voir les décors et tout, mais c'est plus avec une curiosité qu'avec ma casquette de compositrice. D'accord. C'est plus en tant que amoureuse des comédiens, complice du réalisateur, de la réalisatrice, etc., qu'avec vraiment la casquette de compositrice de attention, je suis en train de m'inspirer. Non, les rushs et les styles qui m'inspirent beaucoup pour créer les premières choses. Ouais.
Tu veux que je prenne une autre ?
Ah bah ouais.
Écoute. Alors, Paris, France, ailleurs.
Alors, on a déjà parlé de La Réunion. Ouais. On a déjà dit que t'aimais les îles. Mmh. On peut peut-être parler de Paris.
Ouais.
Parce que tu es née à La Réunion.
Je suis née à Paris.
T'es née à Paris.
Vraiment de... Parce que du coup, il y avait des problèmes d'hospitalisation et de naissance l'année où je suis née. Donc, ma mère est vraiment venue accoucher à Paris. D'accord. Et je suis repartie à 2 semaines à l'île de La Réunion.
Ah, donc t'as grandi à La Réunion.
Ouais.
Ok.
Ouais.
Et pourquoi et quand tu reviens à Paris ?
Je suis revenue à Paris, en fait, à partir de 5 ans, je vivais à Paris, entre Paris et La Réunion, entre mes 5 et mes 12 ans, j'étais vraiment moitié-moitié. Et à 12 ans, j'ai été plus du tout... Enfin, moi, j'ai le sentiment d'avoir été un peu arrachée de La Réunion, parce que du coup, du jour au lendemain, j'y suis plus du tout allée, parce que des choses ont été compliquées, etc. Mais donc, du coup, en plus, dans un truc de quelque chose qui fait partie vraiment de ta vie, qui disparaît à ce moment-là.
C'est quelque chose que t'as mal vécu à l'époque ?
Oui, bah parce que c'était mon identité, justement. C'était que j'étais cette fille des îles, et puis du coup, je suis contente, j'y suis retournée un petit peu dernièrement, mais j'ai eu quasiment 20 ans où j'y suis pas allée, donc ça a été un endroit comment dire, de corde sensible au sens propre du terme, pour une musicienne dire ça, mais voilà, du coup c'était un peu c'est la corde sensible quand même, la Réunion. Et Paris, j'adore cette ville, c'est marrant, on s'est posé la question de déménager, de bouger, de partir à Marseille, comme plein de
ouais,
gens
tout le monde a fait ça, voilà,
ça
dernièrement.
Enfant, donc on s'est dit, attends, voilà. Et puis se rapprocher de la mer et tout, et en fait je me rends compte que je suis extrêmement attachée à Paris, que j'adore connaître très bien la ville où je vis, parce que je connais franchement plutôt très très bien Paris, parce que j'ai vécu dans plein de quartiers différents et tout ça. Franchement, donc, je sais pas, je pense à peu près 10, 11 arrondissements sur 20.
Ah
et puis,
oui.
Puis, je sais pas, les histoires d'amour, les histoires d'amitié, les trucs font que j'ai eu l'occasion de rencontrer plein de quartiers, de vies de quartiers différents. Et j'adore, je trouve qu'il y a un truc, moi, ça me calme énormément. Et étant quelqu'un d'assez anxieux, ça me calme vachement d'être dans cette ville si grande, bon, qui n'est pas si grande par rapport à d'autres villes, mais... d'être dans cette ville si grande et qui fait autant rêver et de dire moi je la connais. Enfin, il y a un truc.
Ah, je suis d'accord. Voilà. Il y a un peu de fierté aussi à ça parce que je trouve que c'est une ville qui se livre pas si facilement.
Complètement.
Elle a plein de secrets, elle a plein de passages un peu mystérieux, de quartiers. On peut ne pas les connaître avant longtemps.
Ouais.
Et je trouve que quand tu commences à vraiment bien connaître cette ville, on l'a un peu conquise.
Oui,
et c'est...
oui, complètement.
Et il y a une fierté de ça,
je
trouve. Je
suis d'accord. Et du coup, un truc qui me rend à la fois fière et à la fois que je trouve très rassurant aussi. Et vraiment, c'est un endroit, enfin même, c'est con, mais c'est une blague avec quelques potes et tout. Enfin, si tu me dis, je vais à Ballard, je te dis, bah, c'est la 8, tu la prends à Gare Boulevard. Enfin, ce truc de connaître les plans de métro,
ah
c'est vraiment
débile. Ah oui,
je suis d'accord, vraiment...
tellement d'accord avec
mais
toi.
C'est une skill nulle, parce qu'en plus, il y a des applis qui font hyper bien. J'aimerais libérer mon disque dur et le remplir par d'autres trucs plus utiles, tu vois, des trucs que vraiment que je pourrais pas remplacer. Mais voilà. Et du coup, ce truc, voilà, pareil, tu vois... Et puis, je sais pas, un truc, non, bah, voilà, bref, là, c'est complètement absurde, mais j'adore quand on me demande le chemin dans la
rue. Et que je sais répondre.
Voilà. Bon, bref, ça va, je pense, de l'ordre du même sentiment, tu vois, global, de je maîtrise mon lieu, qui en plus est un lieu tellement beau et voilà,
puissant,
et, puissant et extraordinaire. Et voilà, je me sens. Donc, j'adore Paris.
Oh là là, c'est génial, une parisienne qui aime Paris.
Ah,
j'adore.
Ouais. Non, carrément,
ça
carrément.
Change.
Donc, j'adore parler de Paris, j'adore.
Il y a beaucoup de discours de parisiens blasés, quand même. Ouais, moi j'en ai marre de Paris. Enfin, on entend beaucoup ça quand même. Enfin,
ouais, beaucoup.
Et même des gens qui vont pas au bout de leur râlerie, qui déménagent pas pour Marseille ou je sais pas où. Les gens râlent beaucoup de vivre
à
Paris.
Après, c'est aussi une ville dure, c'est aussi une ville électrique, c'est une ville où il y a beaucoup de misère, c'est une ville. Mais voilà, après, c'est une ville, moi, que j'aime profondément pour toutes ces raisons-là, quoi. Donc, qui du coup, compense complètement les côtés négatifs.
Est-ce qu'il y a d'autres pays?
Bah, ça pourrait parler du Costa Rica,
ah
qui est un endroit que j'aime beaucoup, où on a passé pas mal de temps il y a 2 ans, quelques mois, et où on se disait, et je pense que ça c'est aussi le truc insulaire, tu vois, de cette autre vie ailleurs, et moi quitte à vivre en France, quitte à vivre à Paris, et, tu vois, je suis dans le centre de Paris, enfin donc quitte à être, moi j'aime bien aller au bout des entonnoirs, Mais pour le coup, si c'était pas ça, ce serait le Costa Rica. Enfin, je pense qu'il y a, j'ai pas vraiment d'endroit où je serais bien entre les deux. Tu vois, les villes de plus. Moi, j'aime bien effectivement les paroxysmes. Et donc, le Costa Rica, c'est un endroit qu'on a découvert où là, pour le coup, il y a un espèce de retour absolu à, pour le coup, au paysage de mon enfance quand même, parce qu'il y a ce côté très tropical, la mer, la chaleur, une certaine, voilà, quelque chose de très intense aussi, hein, parce que c'est très intense. Tu sais, c'est cette espèce d'ailleurs possible. Tu vois, Paris, France, ailleurs. C'est cet ailleurs-là. Mon ailleurs, il est là-bas, du coup. Il serait là-bas. I'm going to a town that has already been burnt down. I'm going to a place that has already been disgraced. I'm gonna see some folks who have already been let down. I'm so tired of America. I'm gonna make it up for all of the Sunday times. I'm gonna make it up for all of the nursery rhymes that never really seemed to want to tell. I'm so tired of you, America. Making my own way home. Ain't gonna be alone. I got a life to lead, America. I got a life.
Meilleur espoir, un vendredi sur 4 à 19h sur Radio Campus Paris.
Colère.
Est-ce que tu es quelqu'un qui se met en colère facilement ?
Je lutte. Ouais, je peux être colérique. C'est mon chantier. mais voilà, je pense qu'on a tous nos... C'est des manières de sortir des sensibilités. Moi, effectivement, c'est dans la colère parce que c'est un... Je dis souvent que parfois on confond la zone de confort et la zone confortable. Moi, la colère, c'est ma zone de confort. C'est un peu ce qui... Comment dire ?
C'est ce qui vient facilement.
Ouais, mais du coup, tu sais, parfois, tu as des personnes avec qui tu échanges. Tu dis, ah, mais là, regarde, c'est horrible ce qui m'arrive, machin. Je dis, oui, mais même si c'est horrible, c'est une situation qui n'est pas confortable, c'est ta zone de confort. C'est l'endroit, malgré tout, auquel tu reviens de manière un peu pavlovienne parce que c'est ce que tu connais. Ça ne veut pas dire que c'est confortable, mais c'est une zone de confort. Moi, la colère, c'est ma zone de confort. Donc, c'est pas confortable. C'est surtout quelque chose qui me fait du mal à moi en général, d'ailleurs, parce que c'est... Voilà. Mais par contre...
Ça s'exprime comment ? Genre, tu cries ?
Non, pas trop. Non, c'est plus à moi-même, en fait. C'est plus un sentiment intérieur que forcément des colères. C'est que je me sens en colère sur des trucs. Tu en parlais de politique tout à l'heure, etc. Ça. Voilà, des trucs qui me mettent en colère, mais je pense que c'est jamais le bon endroit, justement, pour... Non, je crie pas, je me fâche pas, ni rien. C'est plus avec moi-même.
T'es
en fait.
Pas du genre à te fâcher avec
non,
les gens.
Non. Non, franchement, pas trop. Depuis, non, je me fâche pas. C'est plus un sentiment intérieur où du coup, je sais que c'est pas fertile d'être en colère. Ça fait pas avancer les choses. D'être en colère, d'en vouloir, voilà. Donc j'essaye de.
Bon, t'es sage.
La résilience, quoi, le truc d'après. Pas facile la résilience. Quand il t'arrive un truc dur, etc., tu veux pas être en colère, d'être plutôt. Mais c'est un long chemin.
Est-ce que tu veux en tirer une dernière ?
Ouais. Allez, je vais en prendre un rose comme micro.
Transport.
Alors c'est bête, mais je sais pas. On parlait beaucoup de Paris, on parlait du métro et tout. Ouais. Comment tu te déplaces dans cette ville ?
À pied.
Tout le temps ?
Ouais, quasiment. Franchement, je prends le métro vraiment quand c'est très très loin, vu que je suis effectivement très centrale et j'adore marcher.
Et vélo ?
Non. Pas du tout, j'ai hyper peur et je passe ma vie à engueuler, tu vois, la colère sur les vélos justement qui traversent au feu rouge.
J'ai
et quand
hyper
je suis...
peur de faire du vélo.
Ouais, et moi je suis avec mon fils et ils sont là, ils passent au feu rouge avec, en train de regarder les téléphones. Et donc ça, pour le coup, si je leur crie dessus. Non, moi je marche beaucoup. Après le métro aussi, quand c'est des trajets évidemment trop longs, je prends le métro. Mais sinon quand même, 90% du temps, je marche.
Et du coup... comme tu as passé beaucoup de temps à Paris, est-ce que tu fais partie de ces Parisiennes qui n'ont pas pris le temps de passer leur permis de conduire ?
Si, je l'ai. Ah je l'ai, et je l'ai passé pour mes 30 ans, donc c'était pas non plus j'étais pas non plus une early bird, comme on dit, mais je l'ai passé pour mes 30 ans parce que je me suis dit que, je sais pas, pour mes 30 ans, j'ai passé en 2 mois le permis voiture et le permis bateau, donc il y avait un petit, je sais pas, c'était une petite, je me suis fait une petite obsession transport, et je me suis fait une petite obsession liberté. Et la liberté de se mouvoir, c'est de pouvoir conduire et conduire un bateau. Je ne sais toujours pas conduire un bateau. Je ne suis pas une grande conductrice automobile, même si j'aime bien conduire, pour le coup. Mais voilà. Mais, du coup,
et est-ce
non,
que
j'ai
Julien
quand même le permis.
A son permis ?
Julien a son permis.
Ah.
Ouais. Julien a vraiment son permis depuis qu'il est... Non, lui, pour le coup, il a son permis depuis toujours. Il allait
donc
beaucoup.
Donc, si jamais il y a une voiture, ce n'est pas que pour toi
ou non.
Que pour lui. Vous
non,
pouvez
non,
vous
c'est
relayer
pour nous
tout ça.
Okay. Mais c'est cool, je suis contente de pouvoir prendre le volant aussi. C'est vraiment un... Et j'ai c'était il y a 10 ans, du coup, parce que j'en ai 40, mais à chaque fois que je rentre, j'ai quand même un peu l'impression de jouer la grande, quoi. Enfin, à chaque fois que je rentre du côté conducteur, je suis toujours un peu genre... Ah, allez, c'est qui là ? Tu vois, j'ai un petit truc bon, complètement con, mais ouais, qui est là. Donc en fait, je pense que c'est pas complètement digéré. Mais tant mieux, hein, les joies qu'on digère pas, elles restent joyeuses. Du coup, enfin, tu vois, c'est pas digéré. Je suis toujours contente, je suis toujours un peu fière d'avoir.
Toujours.
Bah ouais, toujours. Non, c'est complètement, c'est resté à cet endroit-là. Donc voilà, pourquoi pas. C'est des petites joies faciles. Du coup, je rappuie sur le bouton et je repars pour un temps de ménage. C'est cool.
Super. Audrey, on arrive à la fin de notre entretien. Qui était instructif et charmant et joyeux. Et il est temps maintenant de te demander qui tu désignerais pour participer à cette émission. Qui serait ton meilleur espoir ?
Ben moi, je trouve qu'il y a plein de gens merveilleux et je pense à plein de gens avec qui je pense que tu aurais des échanges tout aussi passionnants et riches, etc. Et je me disais que peut-être Clémence Madeleine Perdria, qui est une scénariste dont j'adore le travail et qui, je trouve, ces dernières années ne fait que exploser, rayonner de plus en plus dans le paysage audiovisuel français, puisqu'elle est devenue de plus en plus incontournable. Si ça te dit d'aller...
Je serais ravie de la rencontrer. D'accord. Merci beaucoup, Audrey.
Merci à toi. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly.
all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life, you were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, into the line of a dark black night. Black night. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life, you were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise.